Evi Kalogiropoulou, enfin, traité de la petite bonté, lettre à une jeune amie de Zigane, de Melika Abdelmoumen. Très très bonne semaine et surtout, tenez bon.
Radio Libertaire 89,4 MHz, dessous de scène, magazine de créatures radiophoniques. Nous sommes ensemble pour une heure et demie. Une heure et demie, c'est le temps pour que 51 chiens ou chats soient abandonnés en France. Une heure et demie, c'est le temps pour que 300 000 euros soient piqués joyeusement dans les poches de tous ceux qui bêtement vont faire des paris sportifs en ligne. Une heure et demie, c'est le temps que 78 pièces de théâtre soit commencé ou terminé dans le cadre du Festival d'Avignon. Une heure et demie, c'est le temps que 1,5 million de bouteilles d'eau en plastique soient vendues en France. Une heure et demie, c'est le temps que l'application Poppins propose devant la Maison du Climat une fan zone, non pas une de ces zones où l'on entasse les supporters des équipes de foot pour qu'ils crient ensemble face à des ballons, mais fan, le mot issu du ventilateur, pour que vous puissiez proposer à vos voisins, s'ils le souhaitent, une location de votre ventilateur. Une heure et demie, c'est le temps que 270 000 euros d'amende soient acquis par la France pour non-respect des directives européennes sur le recyclage. Une heure et demie, c'est le temps pour qu'une hirondelle bouffe 180 petits insectes. Et une heure et demie, c'est le temps que votre glotte produise, non pas votre glotte, mais votre bouche produise 5 à 6 centilitres de salive, c'est-à-dire, somme toute, guère plus que l'équivalent de 2 petits verres de whisky. Dessous de scène, nous sommes ensemble pour une heure et demie et, évidemment, quelques petits... Je me souviens. Je me souviens de la mention courrier de Jean-Pierre Liégeois, jeune lecteur du Var, dans Guéluron. Je me souviens que quand j'ai entendu à 20h à la radio que Le Pen se qualifiait pour le second tour, j'étais en train de corriger des copies d'élèves qui, d'ailleurs, dans la semaine qui suivait, allaient manifester en masse. Quant à Esther, elle s'était enfermée depuis 2 heures pour s'entraîner sur une épreuve de concours de la fonction publique. J'ai attendu encore 2 heures qu'elle finisse son épreuve pour l'informer. Qu'est-ce que ça changeait ? Je me souviens que Bruno nous avait annoncé avec fierté à l'époque avoir acheté une maison dans le Midi avec façade orientée plein sud, avec une gigantesque baie vitrée. C'était au siècle dernier, ça. Je me souviens qu'alors que j'ai toujours été capable de sortir les pires horreurs en cours pour relever la tension défaillante ou créer un marqueur de mémoire sur des résultats importants, ou même juste pour faire le zouave, je l'avoue narcissiquement, des jeux de mots, des provocations scabreuses, des contrepétries salaces, des jongleries stupides, des anecdotes invérifiables si nécessaire. Eh bien, quand je croise un ou une ancienne élève dans la rue, le métro ou au resto, je suis intimidé, balourd, gêné aux entournures, et c'est toujours 10 minutes après un bon, bonne continuation que je trouve quelques souvenirs que j'aurais dû ressortir avec cet ex-élève. Je me souviens de Jules Vallès, Louise Michel, Théophile Ferré, Jaroslav Dabrowski, Gustave Courbet, Jean-Baptiste Clément, Eugène Varlin, Auguste Blanqui, François Jourde, Charles Delescluze, Edmond Vaillant, Raoul Rigaud, Léo Frankel, Gustave Tridon, Valérie Wroblewski, Elisabeth Mitrieff, Alix Payen, Victorine Brochet, Louis Rossel, Pierre Bourgeois, Gustave Flourens, Maxime Lisbonne, Maxime Vuillaume, Édouard Moreau de Beauvière, Benoît Malon, mais comme je le dis souvent, il y a plus de chances, enfin de risques, statistiquement, que nous descendions, vous comme moi, d'un soldat versaillais que d'un communard fusillé. Je me souviens qu'Hervé m'avait montré, tu vois, cette chevalière, je l'ai achetée pour les 6 mois de ma fille. J'en avais marre des putains de bagnoles mal garées qui empiétaient sur le trottoir et les passages cloutés. Oui, Hervé disait passages cloutés, génération oblige. Ça bloquait ma poussette. Alors, depuis, quand une caisse me bouche le passage, je frotte bien le dos de ma main avec la chevalière sur toute la longueur de la carrosserie et il imitait le bruit de la tôle qu'on raye. M'a d'ailleurs rappelé en ça Petit Dove qui, de son côté, grimpait avec ses Doc Martens de bon droit sur le capot, voire le toit des voitures qui le gênaient sur son passage au vert piéton rue de Crimée ou ailleurs. Je me souviens de Polly Underground, Bertha von Paraboom, Rita Renoir, des noms imprononçables et improbables, des danseuses du Crazy Horse Saloon. C'était sur les photos, dans des reportages, dans les revues en salle d'attente du dentiste ou du médecin, quelques tétons pour me faire oublier le bruit de la roulette, ou dans les pages spectacles de l'Officiel des spectacles, mais là, il me semblait qu'il y avait vraiment un zéro de trop dans les tarifs. Je me souviens de 2 étés de suite où j'étais resté à Paris pour le travail. L'après-midi, sur France Inter, j'écoutais Daniel Mermet dans La coulée douce, une émission de lecture de textes sensuels, érotiques et ou pornographiques.
J'entends parler d'effets de serre. La maîtresse nous disait penser à éteindre les lumières. C'est mieux pour la planète si on devient tous responsables. Alors faites attention, ne gaspillez pas l'eau potable. Et puis en grandissant, j'ai remarqué que les grands magasins, toute la nuit durant, laissaient allumer leurs vitrines. C'est peut-être que leurs gérants ne sont pas éco-citoyens, ou bien qu'ils sont sûrement en overdose de caféine.
Sûrement en overdose de caféine. C'est le réchauffement climatique qui nous fait bouillir la cervelle. Cette croissance frénétique, mélancolique qui nous harcèle. C'est le réchauffement climatique qui nous fait bouillir la cervelle. Cette croissance frénétique, mélancolique qui nous harcèle.
Sur les bancs du lycée, on a parlé de la croissance. Mon prof éco disait le chômage est une évidence. Pour être compétitif, rien ne vaut quelques licenciements. Tu sais, le capitaliste fait pas dans les bons sentiments. J'ai lu 2-3 bouquins pour mieux comprendre l'économie. Tes envies, tes synthèses, la guerre ou la consommation. Chômeur consommateur, est-ce la bonne alchimie? Ou peut-être que la croissance n'est pas la bonne appellation?
La croissance n'est pas la bonne appellation. C'est le réchauffement climatique qui nous fait bouillir la cervelle. cette croissance frénétique, mélancolique qui nous harcèle. C'est le réchauffement climatique qui nous fait bouillir la cervelle. Cette croissance frénétique, mélancolique qui nous harcèle.
Et Donald qui nous tweet, le réchauffement n'existe pas.
Il faut prendre des mesures pour préserver cette planète.
Alors faites-nous confiance, on va trouver la bonne recette. Mais est-ce que la croissance peut devenir écologique?
Tandis que sa terre fond, l'ours polaire survit aux zoos.
On voit des pétroliers rêver de migration arctique.
Se frayer un chemin entre ces continents nouveaux.
C'est le réchauffement climatique qui nous fait bouillir la cervelle. Cette croissance frénétique, mélancolique qui nous harcèle. C'est le réchauffement climatique qui nous fait bouillir la cervelle. Cette croissance frénétique, mélancolique qui nous harcèle. C'est le réchauffement climatique qui nous fait bouillir la cervelle. Cette croissance frénétique, mélancolique qui nous harcèle.
Radio Libertaire, 89,4 MHz, il est 41, et d'ailleurs, ça marche bien, il fait aussi 41. Et ça, c'était une chanson climatique 2.0 par un groupe intitulé Le Caribou Volant. C'est sorti il y a 3 ans, et depuis, ça ne s'est pas arrangé. Dessous de scène, alors, Laurent est excusé pour aujourd'hui. Il devait venir avec une invitée, Jeanne Verheyt, qui est donc, de fait, excusée par la même occasion. Joëlle est en formation et Ariel et Elsa sont en cycle de déformation en train de fondre, donc ils se sont enfermés dans leur propre congélateur pour éviter de se liquéfier. Et dans le studio, mais Michel, ça faisait un bail qu'on ne t'avait vu, ça va Michel?
Oui, ça va très bien, ça va très bien. J'ai vécu la première canicule dans un hôpital très bien climatisé, mais la deuxième, ils m'ont pas accepté. Voilà, je suis venu avec un livre, alors ça s'appelle Rock in the City, parce que c'est Bruno Blum qui a encore écrit un livre, et qui vient de me l'envoyer. Alors je vous en lirai un petit morceau du début, que je découvre en même temps que vous.
Pour ma part, j'ai apporté, tiens, L'étrange napolitaine de Francis Blanche, un des feuilletons qui avait été écrit par ce bon Francis. J'ai peut-être d'autres petites choses. Ah oui, tiens, j'ai sorti un texte de Gaëtan Roussel également, et je vous livrerai peut-être un texte de Morgane Cossarieux, qui avait été par deux fois l'invité de Bulle Noire dans la dernière saison. D'ailleurs, cette semaine, dans 1h20, c'est pas Bulle Noire, c'est Bulle de Rêve sur l'antenne de Radio Libertaire. On commence par quoi, Michel?
Ah ben à ce moment-là, si c'est moi qui commence, je vais commencer par le début du livre, enfin presque le début, parce qu'il y a quand même des petits articles qui sont des introductions. Mais Bruno Blum raconte un petit peu des anecdotes qui se sont produites alors qu'il travaillait pour Best. Il était donc il habitait Londres. Et c'était très pratique puisque c'était à Londres que ça se passait à ce moment-là au niveau du rock. Enfin, il se passait pas mal de choses, pas seulement à Londres, mais donc. Ce passage du livre s'appelle le clash, le rock est mort. Alors voilà, Dès la première grossièreté télévisée des Sex Pistols à l'heure du thé, le 1er décembre 1976, l'Angleterre conservatrice s'est déchaînée contre le rock punk. La répression faisait rage, et avec elle une inimaginable vague d'oppression appliquée à une génération entière d'adolescents. White Riot, le premier 45 tours de Clash, est un appel révolutionnaire à la révolte des Blancs qui, au goût de Joe Strummer, ne se rebellent pas assez, pas autant que les Noirs. Comme au carnaval antillais de Notting Hill, Gate, de 76, le disque a été dénoncé à tort comme étant un manifeste nazi et raciste par les tabloïds de la droite populiste qui tient presque tous les quotidiens. Allié à la publicité occasionnée, cette injustice criante, pour ceux qui ont écouté la chanson, a élargi la base punkoïde. Mais la réaction s'est vite métamorphosée en censure dans un contexte nettement contestataire. Sur fond de chômage de masse, les concerts punk sont les premières victimes des interdictions. Après le désastreux Anarchy Tower des Sex Pistols, les tournées cataloguées punk ont été annulées à la chaîne malgré la demande du public. La frustration des ados était à son comble. Les nouvelles idoles locales, Stranglers, Sex Pistols, James, Damn, Shame 69, Generation X, Buzz Rock étaient bâillonnées. Mais à peine sorti, le 33 tours très engagé à gauche, The Clash, dont la pochette montre l'émeute raciale de 1976 de Notting Hill Gate, est monté directement au sommet des ventes. Devant l'ampleur que prenait le mouvement et de peur que des émeutes se déclarassent, à l'extérieur des petites salles bondées où les groupes étaient confinés, la monarchie abasourdie a prudemment reculé. Le Clash a été le premier groupe portant l'étoile punk à obtenir enfin l'autorisation de jouer dans une véritable grande salle. Le 9 mai 1977, le groupe est monté sur la scène du Rainbow Theatre de Finsbury Park, dans le nord de Londres. C'est le quartier pourri de Johnny Rotten, situé au cœur du ghetto populaire à forte densité jamaïcaine, pakistanaise et irlandaise. L'ancien cinéma contient environ 3000 sièges et les billets ont été vendus en un temps record. Shame 69 et The James ouvraient pour le Clash. Quand Shame 69 a pris la gigantesque scène d'assaut, c'est 6 mois de frustration adolescente qui s'est déchaînée sous la lumière blanche. Un éclair d'énergie, un chaos de sons confus, des larcènes, des hurlements s'est brusquement emparé du public en transe instantanée. Le spectacle a été indescriptible, inquiétant. La foule n'était pas préparée à une telle secousse d'adrénaline. Le son était atroce. Les groupes débutants jouaient mal, le regard fixé sur les manches de guitare. Les videurs n'étaient pas plus près que le public. Ils ont assisté furieux au premier fauteuil fracassé par les Doc Martens. Ensuite, le trio punk, tendance néo-mode, The James, a surgi par bond comme trois diables d'un trampoline de boîte de Pandore, boîte de nuit. Malgré le son atroce, les gamins électriques surexcités ont balancé un répertoire à couper le souffle. La salle était pleine, chauffée à bloc, et le pogo faisait peur. Le grand spectacle était dans la salle en furie. Les vagues de foule étaient en tempête, force 8. Les sièges en pièces s'empilaient devant la scène. Les videurs cognaient à la première occasion, la haine montait encore. La tension semblait insurpassable. The James sautait en l'air tout le temps comme le public. C'était leur marque de fabrique, leur signature. Comment le Clash allait-il oser se pointer derrière un succès aussi démentiel? Mais quand Strummer, la télécaster bardée d'un calico contrôle, s'est avancée impériale animée de soubresauts sous les accords désastreux de Clash City Rockers, tout a basculé de l'hystérie à la folie pure. Les sièges à bascule de velours rouge et bois ciré n'étaient pas prévus pour un tel déferlement d'énergie. Et pour pouvoir pogoter tranquille, le public en furie a décidé de péter méthodiquement les 1600 fauteuils restant en bas. Le balcon a échappé à la destruction. Les visions étaient ahurissantes. Les fauteuils volaient par centaines vers la scène et s'accumulaient dans la fosse d'orchestre réservée aux photographes qui ont fui jusqu'à gêner le spectacle. La pile menaçait de s'écrouler, les fauteuils projectiles s'écrasaient à deux doigts des mômes, risquant de les tuer net à chaque impact. Le son était de plus en plus abominable, saturé, on ne comprenait pas un mot. Les morceaux étaient indistincts les uns des autres, enchaînés à 100 à l'heure, dans une bouillie de distorsion. Bientôt, un nombre incalculable de fauteuils cassés a encombré complètement la scène elle-même. Les mômes s'amusaient à essayer de dégommer les rampes de lumière, les moins hautes, avec les accoudoirs en métal. Les musiciens amusés mais inquiets esquivaient les missiles en jouant. Quelques spots se sont décrochés et pendouillés au bout de leurs fils, aveuglant la salle d'un filet de lumière post-nucléaire qui se balançait au son du rock. Paul Simonon, des scotch sur son manche de basse pour repérer les cases. Merde, gesticulez, mon téléphone qui sonne, c'est pas possible, au secours. De son manche de basse pour repérer les cases, gesticulait, le regard fixé sur sa main gauche, sautillant pour éviter le magma de Special Brew, comment on prononce, éventé de crachats, pratiquant des écarts violents, denses, viriles et heurtés. Strummer vociféré, inaudible, le pied du micro en croix sur les épaules, Antéchrist juché sur l'amoncellement de sièges qui couvraient maintenant la scène pourtant immense. Il y a encore une page et demie. La vision était vraiment apocalyptique. Il était à 2 mètres de hauteur, piétinant les coussins éventrés, et sa prestation n'avait commencé que depuis 20 minutes. Le pogo a continué dans les flaques de bière chaude et les esquilles de plancher qui dépassaient. C'était indescriptible, violent, chaotique. Il fallait calmer le jeu. Joe, habillé par une fièvre d'amour, les yeux exorbités, a expliqué tant bien que mal que, contrairement aux rumeurs orchestrées par la presse de Murdoch, les chansons n'avaient rien à voir avec le National Front qui venait de marquer des points aux élections. La foule a approuvé d'un rugissement, profitant de l'attention du public. Il a demandé d'essayer de se calmer un peu, de respirer, ponctuant ses exhortations de silence, perché sur les fauteuils fracassés. Il a prononcé « Now breathe, breathe the... » puis après avoir soufflé « Calm down your temper ». Je me rappelle comme si c'était hier. Ensuite, se protégeant des spots aveuglants sous son avant-bras, enlaçant le pied du micro, scrutant la foule sous les fauteuils qui continuaient à pleuvoir, Joe a repris lui-même son souffle, une seconde, a tourné le début de l'accalmie en dérision, et en un clin d'œil et en un éclair, il a brusquement éructé, défiant, bavant. Ce morceau s'appelle White Riot, 1, 2, 3, 4, boom, coup de pied dans la fourmilière, le pogo a re-re-explosé, animé de spasmes rythmés. Joe Strummer déchirait l'univers avec sa présence hypnotique, battant sa guitare plutôt qu'il ne la jouait. Le nouveau batteur Topper propulsait tout ça avec un rythme solide, implacable, sans une seconde de répit, ni baisse de tension, armé de sa Gibson. Les Paul Junior, Mike Jones s'excitaient de son côté, évitant un lourd fauteuil qui a fini par exploser en plein dans la batterie. C'est le jeu de massacre. Il fallait recoller les morceaux sous peine de soulèvement général. Au paroxysme de l'action, Strummer, assis sur sa pile d'objets divers, guettant les projectiles, est devenu lui-même un spectateur. Il chantait avec automatisme, désincarné, possédé. Le déchaînement dans la salle empirait encore, la salle du légendaire Rainbow était détruite, plus de 1000 fauteuils ont été arrachés du sol à coups de pompe, les videurs évacuaient les fauteuils les plus gênants, chopaient un punk trop téméraire qui les narguait en crachant de la bière, et évacuaient une punkette en manque d'air, mais au vu des circonstances, personne n'attendait un pareil typhon. Le succès fut total, définitif, imbattable, record du monde de rock'n'roll, voilà ce qu'était véritablement le Clash au sommet de sa gloire. La libération totale, on imagine les titres du lendemain. La destruction des sièges a repris avec un concert de Eddie and the Hot Rods où j'étais présent, puis Rainbows a refusé le concert de rock New Wave en 77 avec les Sex Pistols. Le Clash et quelques autres, la nouvelle vague a enterré l'ancienne vague de rock progressif et une nouvelle ère a commencé en 77, celle de l'agonie du rock, comme le chanta avec prémonition Jim Morrison le 8 décembre 1970. Rock is dead, il était en réalité en train de renaître de ses cendres. Voilà.
The Clash, évidemment. Radio Libertaire 89,4 MHz. On alterne avec un peu de Francis Blanche avec L'étrange napolitaine, roman paru aux éditions Trévise, qui est dans l'esprit des signés Furax et Bon Baiser de partout. En voici le prologue. C'était le 18 mai dernier. Il neigeait et un froid intense étreignait Paris, car depuis quelque temps les saisons sont décalées. C'est bien connu. Ça doit être à cause de leurs bombes glacées au cobalt atomique et à l'hydrogène. Toute l'affaire a commencé de façon très simple, très banale, imperceptible. Vous connaissez l'hôtel Adrien VII. Vous pouvez admirer sa superbe façade sur l'avenue d'Iéna, mais attention, les fournisseurs et le personnel passent par l'entrée de service, laquelle donne, avec beaucoup de générosité d'ailleurs, sur la rue Mouffetard. Ce jour-là, Monsieur Mesclin, le sympathique directeur de l'hôtel, paraissait soucieux. Il appela soudain, comme après avoir mûri et soupesé une douloureuse décision, une femme de chambre qui travaillait dans une pièce voisine à retirer la poussière sur les meubles avec un grattoir. « Pipistrelle !» Cette humble travailleuse interrompit aussitôt, avec un zèle admirable, son obscure, pénible, mais efficace besogne. La scrupuleuse personne avait longtemps mis toute son ardeur professionnelle et son amour des objets bien astiqués au service d'une grande maison de disques. Aussi obéissait-elle toujours sans hésiter à la voix de son maître. Elle apparut donc son grattoir à la main. « Vous m'avez appelé, monsieur ?»« Absolument pas, répliqua-t-il, avec une détestable mauvaise foi. Mais puisque vous êtes là, allez me rendre un service, toute affaire cessante. » La dévouée pipistrelle crut pourtant devoir objecter. « Mais monsieur, il faut encore que je gratte les poussières dans votre chambre à coucher. » « Laissez tomber la poussière. N'importe comment, elle tombera bien toute seule, » soupira monsieur Mesclin, fataliste. « Filez dardard à la chambre 8743 au 8e étage. » « Au 8e ? » Au grenier, alors ?» bougonna l'aimable femme de ménage de moins en moins serviable. « Exactement. Allez me chercher immédiatement les deux types qui habitent là-bas. »« Les déboucheurs de lavabo ? » ?»« Exactement. Pour leur dire que j'ai besoin d'eux, d'urgence. Répétez. » Pipistrelle considéra son patron d'un air un peu rancunier, puis d'un ton morne articula. « Je descends au kiosque à journaux et je vous rapporte l'hebdomadaire « Salut les copains » littéraire. » La bienheureuse n'avait qu'un défaut, elle ne comprenait jamais rien. Monsieur Mesclin, résigné, répéta donc posément, non sans détacher chaque syllabe avec autant de soin que sa blanchisseuse, qui lui rendait toujours un linge pur et sans tache. Je veux les déboucheurs de lavabo de la chambre 8743, ainsi, ici, tout de suite. Ainsi a débuté l'enquête la plus angoissante, la plus dangereuse, la plus extraordinaire de ma carrière. Les deux déboucheurs de lavabo, c'était nous, Gélatine et moi. Ou plutôt, moi et mon assistant Gélatine. Respectez la hiérarchie, je vous prie, ainsi que la discipline. Sinon, nous ne nous entendrons pas. Compris ? Bon, maintenant, je vous autorise à tourner la page. Permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Léo Scoll. Ma mère était française, du Poitou, et mon père vendéen. Voilà pourquoi j'écris avec un accent légèrement étranger, mais à la lecture, vous ne pouvez pas le remarquer. Je ne sais d'ailleurs pourquoi je vous confie cet infime détail, sinon par pure loyauté. Au fond, si l'on devait tout expliquer, il n'y aurait plus d'informations possibles. Déboucheur de lavabo, ce n'est pas mon vrai métier. J'en ai un autre, plus compliqué, mais dans lequel il y a hélas énormément de mortes saisons. Mon vieil ami, M. Mesclin, m'avait donc engagé provisoirement pour m'occuper des tuyauteries. En échange de quoi, j'avais le gîte et le couvert. Piètre gîte et couvert minable, mais que voulez-vous dans la vie, il y a des hauts et des bas. Je crois même d'ailleurs que mes bas sont percés. Déboucher les lavabos, croyez-moi, c'est un dur métier. Surtout depuis que les hommes, eux aussi, portent les cheveux longs. Car dites-vous bien que ce qui bouche les lavabos, c'est avant tout les cheveux, principalement les bruns. Trêve de commentaires techniques. Laissez-moi maintenant vous présenter Gélatine, un brave garçon très dévoué dont la rapidité d'esprit est souvent discutable et dont la lourdeur n'a d'égal que ses possibilités infinies de ne rien faire. Il en a la force. Imaginez un solide gaillard, brun, juvénile, au regard doux et pensif, assez semblable à celui d'un ruminant et au physique de catcheur ou de déménageur. Aussi n'a-t-il vraiment pas plus que moi la vocation de déboucheur. Je vous le répète, ce métier-là, nous ne l'avons choisi ni l'un ni l'autre. Gélatine venait de rentrer dans notre chambre, son air pensif cédait sa place à un véritable affolement. « Monsieur Léo, c'est pas possible ce qui vient d'arriver, devinez !» Je déteste les devinettes. Néanmoins, il semblait tout gris. Allons, raconte. Voilà, patron, en passant dans le couloir du troisième étage, j'ai entendu des cris comme si quelqu'un se trouvait mal. J'ai failli continuer mon chemin, mais finalement, en n'écoutant que mon courage, je suis entré. J'ai frappé poliment et j'ai tout compris. C'était Tony Gilbert. Vous connaissez ? Bien sûr. Qui c'est, Tony Gilbert ? Allons, patron, insista Gélatine, scandalisée par mon ignorance bien naturelle pourtant. Tony Gilbert, le chanteur-comédien qui va tourner un film. Je me souvenais, en effet, il fait partie de la troupe qui loge ici. Oui, figurez-vous que ce que j'entendais, c'était lui qui faisait des vocalises. C'est ça qui t'a retourné ? Gélatine, encore émue, hésitait. Non, monsieur Léo. Ce qui m'a fait comme une sorte d'espèce de choc, c'est qu'il était... Gélatine baissa les yeux. « J'ose pas le dire, » ajouta-t-il. « Vas-y, parle !» ordonnai-je. Il était tout nu, monsieur Léo. Nu comme un gobelet. On ne dit pas nu comme un gobelet, rectifiai-je. On dit nu comme un verre. Je sais bien, patron, mais j'étais tellement soufflé que... Si j'avais eu un verre à la main, ben, il se serait cassé.
L'image de l'arbre. L'image de l'arbre. L'image de l'arbre incrustée dans le ciel. L'arbre agenouillé qui veille sur son ombre. Calme et bleu, comme un ami du soleil. Paysan. bloc trapu, jaillit vivant de la pierre éclatée. Tu mènes le pêtre vers la nuit de gros monstres de paille qui glissent placides au rythme des charrois. Facteur, ange à roulette, tu n'iras jamais à la messe. Dimanche aussi part sans laisser d'adresse. Mais le ciel, le ciel, le ciel, le ciel est un télégramme du bon Dieu. Matin, promesse. Matin, message du simple. Matin. Je ne crois pas au buis qu'on taille. Je ne crois pas au boulingrin. Amis, il faut que je m'en aille. Vos arbres à vous ont trop de chagrin. Langage familier, souffle des temps qui passent, reflet tant aimé, des soirs enfuis sans trace. Image, image, je t'emporte au ciel des jours mauvais, gravé comme une eau forte. J'ai connu des glycines, roses plus que la rose elle-même. C'était dans un jardin chez les bénédictins, à Solesmes. J'ai connu des cinémas pour bonbons la menthe. J'ai connu ce vieux zèbre triste qui se lamente et lentement se décolore au jardin des plantes. J'ai même connu l'homme qui prêtait sa voix pour l'horloge parlante. Mais un matin, lavé de ma vie, de mes livres, neuf comme une larme, adieu, Tour Eiffel. Je reviendrai vers l'arbre, source du vivre, apprendre à chanter pour le vent. Et le vent m'apprendra les parfums de la plaine. Et le vent m'apprendra les senteurs de l'été, coquillages d'odeurs dans ma brume incrustée. Vous ne reviendrez plus à viser quelques peines. Non, je n'ai plus soif et je laisse cette vie d'ardoise et de pierre couler, couler et déborder l'hiver. Tendresse, mademoiselle, prenez une lettre, écrivez. Monsieur, je regrette de ne pouvoir être présent à la réunion du 17 courant, mais je dois m'absenter de Paris, étant appelé d'urgence, appelé là-bas, vers la plaine indéfinissable, là-bas où s'imprime, où s'incarne l'image de l'art.
L'image de l'arbre, interprétée par Evelyne. Evelyne qui reviendra d'ailleurs dans deux semaines, je crois, pour une émission théâtre, ou la semaine prochaine, je ne sais plus. Et là, c'est accompagné par Tim Lazer et Michel Seul. Et on précise que le texte est aussi de Francis Blanche, puisque Francis Blanche n'avait pas qu'une face toute blanche. Dessous de scène, magazine de créatures radiophoniques. Michel, on retourne avec les souvenirs de Bruno.
D'accord. Alors, je cherchais. En fait, ce qui va me fixer mon choix, c'est le fait que ça ne va pas être trop long, parce que je n'ai pas beaucoup de salive par ce temps-là. Je vois qu'il y a un. Il y a un paragraphe qui s'appelle Jeune Alors c'est ça qui est drôle, c'est John McLaughlin, la bonne prononciation. Alors, il me l'avait raconté cette histoire, mais là il l'a écrite. Donc, un jour, j'ai rencontré John McLaughlin à Radio Nova. C'était en 1994, je crois. À l'époque, j'animais ma chronique musicale, le Dr Bloom, à la radio, et je venais enregistrer deux fois par semaine dans les studios de Nova 33, rue du Faubourg Saint-Antoine à Paris. Les locaux du mensuel actuel étaient à l'étage au-dessous. J'y publiais mes dessins de presse tous les mois et je faisais partie des meubles. On rencontrait souvent des gens connus dans les locaux. Ariel Wiesman et Edouard Baird animaient leur émission, La Grosse Boule, en direct et avaient réussi à inviter John McLaughlin, virtuose de la guitare jazz, qui avait enregistré avec les plus grands, de Miles Davis à Stanley Clarke, Herbie Hancock, Paco de Lucia, Santana et compagnie. Ariel et Edouard ne parlaient pas hyper bien l'anglais et vu le calibre, ils m'ont demandé de participer amicalement à l'émission à la rescousse pour traduire ses réponses et lui répondre en cas de malaise. C'était pas la meilleure fois, la première fois qu'ils m'invitaient et ils avaient l'habitude de demander aux vedettes d'enregistrer avant l'émission. Une phrase jingle du genre « Salut, je suis un tel et je suis sur Radio Nova » en ajoutant éventuellement une vanne, un petit bout de chant ou trois notes de guitare. On l'avait déjà fait avec Manu Dibango et je m'en souviens, il avait même joué du clavier en direct. Prévoyant, j'avais donc apporté ma Gibson J45 de compétition pour que l'illustre gratteux contribue en fanfare à la collection des jingles de la Sono mondiale, comme on disait à l'époque chez Nova. Nova n'avait pas encore été racheté par Mathieu Pigas, le milliardaire de la Poste Gauche. Le fondateur et patron de Nova d'origine, Jean-François Bizot, était plutôt un bourgeois branchos. Musique noire, jazz, reggae, etc. En 1994, Bizot ne m'avait pas encore arnaqué et on était en bons termes. Par conséquent, oui, en ce temps-là, on disait encore, par conséquent, c'était avant le du coup, en début de chaque phrase, on disait aussi résultat ou donc, mais pas du coup ni voilà, à chaque hésitation. J'avais donc encore mes entrées, eau et gaz à tous les étages, de son immeuble de médias et j'étais le bienvenu à la Grosse Boule. J'ai ainsi été chargé d'accueillir McLaughlin sur un plateau en lui serrant la pogne, guitare à la main. « Welcome to Radio Nova, Mr. McLaughlin », ai-je lancé souriant, toujours original, en lui tendant ma mimine. J'ai prononcé son blase comme tout le monde en France, « Mr. McLaughlin », erreur fatale. Au moment où nos deux mains allaient se serrer, à l'instant précis où nos deux bras tendus allaient s'effleurer, pile quand les Athéniens s'atteignirent, j'ai lâché mon Mr. McLaughlin. Le jazzeux légendaire contrarié a remballé sa main aussi vite qu'il l'avait tendue pour me toucher, fourrant sa paluche dans sa poche, un sourire arrogant au coin des lèvres, et me regardant dans les yeux. Le John m'a tensé sèchement. John McLaughlin, dans les bronches, pour rectifier ma prononciation de son joli nom. Ça se prononce comme ça s'écrit, effectivement. Et il est ainsi, il est aussi sec passé à côté de moi sans en dire plus, et il est entré dans le studio illico presto, tandis que comme un con dans le rata, mon bras était toujours tendu vers lui. Ça commençait bien. McLaughlin, donc, s'est assis derrière un micro. Edouard, qui n'avait pas du tout calculé la bonne prononciation, lui a baragouiné du McLaughlin mielleux à gogo dans les portugaises en souriant sans que le cador du jazz, ricanant intérieurement, ne relève ses affronts supplémentaires de ses ploucs français. Français et anglais, d'ailleurs. Il m'incombait dès lors de lui demander gentiment de jouer trois notes de guitare en disant dans le micro qu'il était John McLaughlin et que ça l'éclatait d'être sur Radio Nova. Je lui ai tendu ma Gibson millésime 67, une beauté racée qui était à la hauteur de la situation. L'air surpris, ne s'attendant pas à une civile opération commerciale, le géant de la guitare m'a regardé en zigzag et a murmuré méprisant, comme si j'avais pissé dans ses godasses par inadvertance. Tu veux dire que vous me demandez de faire une pub pour votre radio en jouant un truc ? L'air outré, par tant de suffisance et de vulgarité, John McLaughlin a aussitôt passé sa main droite sur les cordes à vide, schlang, produisant un son peu harmonieux, sans même avoir placé les doigts dans sa main gauche sur le manche, sans même former un accord, ni rien, juste schlang, et encore pas très fort. Il a dit « This is John McLaughlin » et a ajouté « Quelle est votre première question ?» Ce coup-ci, tout le monde a senti le malaise. On a parlé de son nouveau disque, comme convenu, et il s'est barré aussi vite qu'il était venu. Voilà, c'était mon quart d'heure de célébrité avec John McLaughlin. Décidément, j'en avais ma claque des stars. C'était pas la première fois que je me faisais casser à la sauce piquante par une célébrité. Je m'étais déjà farci Lou Reed, Johnny Rotten, Sid Vicious, Scratch Perry et même Shane McGowan des Pogues, qui se goinfrait un œuf dur en parlant la bouche pleine tout en crachotant du jaune d'œuf entre ses dents pourries devant le micro. J'en pouvais plus. Il fallait que je change de boulot. Voilà, c'est comme ça que Bruno Blum a arrêté d'interviewer des stars. D'ailleurs, le livre, c'est une suite d'anecdotes de ratage professionnel. C'est amusant.
Thank you.
Évidemment, il s'agit de John McLaughlin et le Mahavishnu Orchestra dans un morceau intitulé « You Know » sur l'antenne de Radio Libertaire. Alors, pour ma part, oui, je vous avais promis de faire un petit détour du côté d'une auteure que j'ai découvert pour ma part dans Bulle Noire cette année à deux reprises. Elle n'est pas venue dans le studio parce qu'elle est tatoueuse, je crois, du côté de Berlin. Et elle était venue pour un bouquin intitulé « Visqueuse » et pour une compilation intitulée Les Nouveaux Déviants, compilation de nouvelles parues au Diable Vauvert. Il me semble que Visqueuse est aussi parue au Diable Vauvert. C'est une spécialiste du roman de mauvais genre, comme on appellerait ça effectivement, puisque elle adore raconter des histoires de vampires, mais en allant au-delà de ce qui a pu se faire les premières fois et au-delà des choses un peu trop gentillettes à son goût qui se font sur les vampires, puisque par exemple, à titre d'exemple de ce qui peut se passer, c'est qu'un vampire rencontre sensuellement une jeune femme, il se prépare à peut-être faire des choses, la jeune femme lui dit « mais tu sais, je suis désolé, j'ai mes règles » et vous vous doutez que le vampire dit je le savais, et je vous laisse deviner la suite, puisque elle aime bien partir dans différents genres. Visqueuse, par exemple, qui est sortie cette année, ça commence comme un bouquin qui peut rappeler le thème de la vouivre, légende de nos campagnes sur cette créature sirénéenne, mi-serpent, mi-femme, et justement femme avec tout ce qui peut arriver, qui se retrouve saisi par un mec de nos campagnes bien bouseux. Alors ça se passe dans le passé, vers les années folles, avec l'histoire du cinéma qui se mêle à ça en même temps, et ce type abuse de la vouivre dans sa cave, et puis ça dévie sur autre chose. Elle adore effectivement nous promener dans plusieurs genres simultanément, mais là, ce que je suis allé rechercher, c'est un de ses bouquins de vampires, et c'est le premier qu'elle a publié, paru en 2012, et dès les premières pages, j'ai trouvé que ça faisait un choc assez conséquent, justement, du côté de la promenade dans différents genres. Mais 2009... L'été n'était pas encore arrivé déjà que Bordeaux se liquéfiait sous la canicule. Durant le jour, on se terrait dans la moiteur des appartements derrière des volets clos, tentative vaine d'échapper à la chaleur. La température ne redevenait supportable qu'en soirée, une fois le soleil éteint. Une brise légère s'engouffrait alors entre les voitures abandonnées sur le trottoir et sécher la sueur sur les peaux avant même que les gouttes ne se forment. Des conditions idéales pour sortir boire un verre. Pourtant, à minuit, les rues du centre-ville n'étaient pas très animées. Les récents événements avaient dissuadé les gens de s'attarder dehors. La femme en noir émergea d'une allée bordée par les passants. Ses talons aiguilles claquaient sur l'asphalte, rythmant sa marche comme un tir de mitraillette. La lumière d'un lampadaire révéla une cigarette entre ses lèvres laquées d'écarlate. Elle en tirait des bouffées avec un plaisir presque érotique. C'était le genre de femme à n'être belle que la nuit. La lune pardonne plus facilement un maquillage trop voyant et une peau qui n'a pas caramélisé sur la plage. Elle pénétra les vapeurs de graisse et de chair brûlée qui s'échappaient des fourneaux des kebabs. Sur la place de la Victoire, quelques téméraires osaient encore se pavaner. Un dealer passait discrètement un petit paquet en poudre. Une poignée d'étudiants avinés rentraient du dernier bar à la mode. Les rues puaient l'urine et le vomi. Ce petit monde ne l'intéressait pas. Elle était à la recherche d'autre chose. Sur les murs des abribus s'étaient placardés des visages angéliques. En dessous, des inscriptions désespérées clamaient « Avez-vous vu mon enfant ?» Elle devait trouver un nouveau jouet ce soir. « Une petite pièce, madame, s'il vous plaît ?» Un mendiant aux yeux injectés de sang et à la casquette cloutée tendait la main vers elle. Elle l'évita et manqua poser ses talons aiguilles sur une crotte de chien étalée sur le trottoir. « Salope » aboya-t-il. Elle s'engagea dans une ruelle transversale et s'immobilisa devant la devanture d'un cinéma de quartier. L'enseigne au néon clignotait faiblement, redessinant les façades en bleu. Sur un panneau de bois, surplombant l'entrée, une affiche élimée proclamait « Dormez le jour, faites la fête toute la nuit, ne vieillissez jamais, ne mourrez jamais, c'est génial d'être un vampire. » Une rétrospective. Quelques souvenirs remontèrent, des nouilles qui deviennent asticots, du sang sur les bouches, un happy end. Elle n'avait jamais aimé les fins hollywoodiennes si éloignées de la réalité. La cigarette n'était plus qu'un tube de cendre, et elle l'envoya dans le caniveau d'un claquement d'ongles pointus. Il n'y avait personne ici. Elle continua jusqu'à apercevoir les manèges de la fête foraine, place des Quinconces. Pas beaucoup d'agitation là non plus. Comme partout ailleurs, les gosses se faisaient rares. Les forains partiraient plus tôt cette année. Sa main tremblait. Il lui fallut une nouvelle cigarette. Elle farfouilla un moment dans son sac et en sortit ses vogues. Des étincelles crépitèrent de son briquet préféré. Un zippo rose avec l'inscription « Barbie est une pute » peinte à la main. « Madame ?» La voix semblait surgir de nulle part. Elle se retourna, un enfant de 7-8 ans environ était recroquevillé sur le banc derrière elle. Elle ne l'avait même pas remarqué. « Tu peux m'aider, madame, s'il vous plaît ?» Il était exactement ce qu'elle cherchait. Elle avança de quelques pas vers lui, mais restait méfiante. Le père ou la mère ne doivent pas être très loin. Je suis perdue. Elle s'assit à côté de lui et l'examina. Un binoclard avec un sweat à capuche d'un orange criard à l'effigie d'une équipe de football quelconque. Elle aurait aimé lui parler de l'équipe pour la madlouer, mais elle ne connaissait rien au foot. Ses grands yeux liquides, dissimulés derrière les lunettes, étaient verts ou bien bleus. Elle n'arrivait pas à décider. Indéniablement, un bel enfant, un blondinet comme on en voit dans les catalogues La Redoute. Elle avait hâte de le ramener chez elle. Elle avait plein d'idées d'activités amusantes à faire avec lui. J'ai perdu maman à la fête foraine. « Près des autotamponneuses, pleurnicha-t-il. Je l'ai cherchée, mais je ne l'ai pas retrouvée. Je crois qu'elle est partie sans moi. Dis, tu penses que maman va me gronder ?»« Mais non, bonhomme. » Elle lui adressa un sourire qu'elle voulait rassurant. Il chouina que sa maman lui avait dit de ne pas s'éloigner, mais qu'il avait vu les barbes à papa et que sa maman, elle n'avait pas voulu lui en payer une. Alors, il y était allé quand même pour se la payer avec son argent à lui. Et puis, quand il était revenu, elle n'était plus là, disparue. Il renifla et se moucha dans sa manche. Il voulait rentrer chez lui. « Dis-moi, bonhomme, t'habites loin d'ici ?»« Je sais pas trop, » hésita-t-il. « T'habites dans Bordeaux ?»« Non, pas vraiment, » il réfléchit un instant, à côté, je crois. Ou alors, à Pessac. Ouais, où ça, à Pessac? Tu sais au moins le nom de la rue? Non, mais c'est près du Picard. C'est là que ma maman, elle fait toujours les courses quand elle a la flemme de cuisiner. C'est super, Picard, c'est ce que maman dit. Ok, je vois à peu près où c'est. Tu sauras reconnaître ta maison quand tu la verras? Il hocha la tête. Faut bien que je passe chez moi récupérer ma voiture. Tu veux bien m'accompagner? Ce ne sera pas long. Le gamin hocha de nouveau la tête et lui adressa un sourire timide, dévoilant deux trous à la place des dents de devant. Elle voulut connaître son âge exact. Je suis plus vieux que je n'en ai l'air. Tout le monde dit que je suis trop petit pour mon âge. Elle rit. Il disait ça avec un tel sérieux. Peut-être avait-il plus de 8 ans, finalement. « Moi aussi, » ajouta-t-elle sur le ton de la confidence, « c'est ce qu'on me dit. Non, toi tu fais vieille, tu fais ton âge. » « Ce ne sont pas des choses à dire à une dame, » se vexa-t-elle. Les sourcils de l'enfant se froncèrent exagérément, lui donnant l'air malveillant d'une poupée good guys. Il gueula « Je dis ce que je veux, poufias !» Et dis donc, qui c'est qui t'a appris à parler comme ça? C'est ta mère, la pute. Il rigola de sa propre grossièreté en se tapant sur les cuisses. Elle le regarda un peu décontenancée. Cette conversation commençait à prendre une tournure bizarre. Elle avait l'impression de vivre un retour d'acide, comme si la réalité venait juste de changer, de s'inverser, qu'elle était entrée dans le monde caché derrière la vitre du miroir. Elle voulut abréger. Bon, on y va, bonhomme? Il cessa de rire et plongea son regard dans le sien. Elle eut soudain un léger mal de crâne, un vertige qui disparaît aussi vite qu'il était venu. Une goutte de sang coula de son nez. « Non, Wendy, » dit-il d'une voix très calme, « on reste là. » Elle resta muette de stupeur quelques secondes, puis vérifia qu'elle ne portait pas encore son badge avec son prénom, non. Elle l'avait retiré en sortant du travail. Elle avait vraiment pénétré de l'autre côté du miroir. Dans cette réalité-là, ce petit garçon n'aurait pas pu connaître son prénom. Elle se leva, cherchant à s'éloigner. « Qui t'a dit comment je m'appelle ?» Quelque chose clochait chez lui. Mais elle aurait été incapable de dire ce qui la gênait dans son visage, pourtant si parfait, si lisse. « Je le sais. C'est tout. Et je sais aussi que ton mari est parti avec ton fils. » Il voulait le protéger de ta folie et depuis, Wendy, tu kidnappes des garçons perdus pour le remplacer. Merde, t'es qui ? Il ôta ses lunettes et les écrasa dans son poing. Ce n'était plus lui la proie à présent. C'était elle. Elle le lisait dans ses yeux devenus deux boutons de plastique. Le gamin lui attrapa la gorge et la ramena de force sur le banc. L'air lui manquait. Elle essaya de se dégager, mais les doigts ne bougèrent pas d'un millimètre, serrant comme des anneaux d'acier. « Arrête, tu me fais mal !» Il lécha la goutte rouge qui pendait au nez de Wendy. « Laisse-moi, » pleura-t-elle, « laisse-moi partir. Je vais t'offrir l'opportunité de devenir enfin une bonne maman. » Il se planta devant son visage. Ses yeux étaient sans fond. Elle regarda dedans. L'un était bleu, l'autre vert. Tout ce qu'il restait de l'univers était ces deux grandes billes. Elle semblait tourner une spirale infernale, l'entraînant vers le noir insondable des pupilles. Une voix lui susurra qu'il fallait qu'elle aime et réchauffe l'enfant. Ses veines palpitaient, comme si le sang s'embrasait dans ses artères. « J'ai besoin de toi pour survivre. Un garçon perdu a besoin d'une maman. » Un vertige. « Sois ma maman pour quelques secondes, une maman aimante, une maman qui sacrifie tout pour ce petit. » Et elle le prit au creux de ses bras, le berça, elle qui n'avait jamais été capable de tendresse. « Laisse-moi boire ton vin, laisse-moi boire ton corps. » Les petites lèvres aussi sèches que du parchemin cherchèrent le pouls qui battait sous sa peau. « Remplis-moi, réchauffe-moi. » Ce qui comptait, c'était d'abreuver l'enfant, de lui donner tout ce qu'elle pouvait. « Pardon, mon fils, d'avoir été une si mauvaise mère, je comprends à présent. » L'essence d'une maman. Quand ce fut fini, le gamin lui ferma les paupières et la laissa là, allongée sur le banc. On aurait dit qu'elle était endormie. Il avait perdu deux dents de lait, restées fichées dans la chair exsangue du cou. Il passa sa langue sur les dents restantes, s'infiltrant dans les interstices, pour recueillir l'ultime saveur qui s'y était attardée. Il fouilla dans le sac du cadavre et prit le zippo rose. Il aimait posséder leurs affaires aussi sûrement qu'il avait possédé leur corps. Oh, Radio Libertaire, 89,4 MHz, dessous de scène, magazine de créatures radiophoniques. Radio Libertaire vit principalement grâce au soutien financier de ses auditeurs et de ses auditrices. Une seule adresse pour nous soutenir, le 145 rue Amelot, quoique maintenant il y a deux adresses rue Amelot, la librairie du Monde Libertaire pour vous procurer la carte d'auditeur de Radio Libertaire et si vous le souhaitez d'ailleurs des informations sur le mouvement anarchiste. Et d'autre part, Radio Libertaire vous signale d'ailleurs que on fera bientôt alors la fête. Alors moi, je me souviens de la première fête qui avait été faite pour les 5 ans de Radio Libertaire, quand on était surpris que cette radio ait réussi à exister pendant 5 ans d'affilée, quand initialement, lors d'un congrès de la Fédération anarchiste, 4 individus bien intentionnés avaient dit « Allez, on va tenter le coup, on va fonder une radio, on va refonder, parce qu'il y avait déjà eu des tentatives avant, on va relancer une tentative d'une radio libertaire sur Paris en 81. Alors après, il y a eu des fêtes pour les 20 ans, les 30 ans, etc. Là, je ne sais pas à quoi on en arrive. Peut-être bien les 40 ans. Allez, dessous de scène, là, c'était une petite musique de Ennio Morricone dans le cadre des Giallo. Et Michel et moi, nous en sommes à 1,5 litre d'eau consommée pour pouvoir continuer à tenir le crachoir. Expression ô combien désagréable. Ce que je vous ai livré tout à l'heure, là, c'était un extrait d'un des bouquins de Morgane Cossarieux qui, effectivement, renouvelle le genre ou même renouvelle les genres. Et là, Michel, on continue avec quelques anecdotes bloumesques.
Je sais pas, parce que c'est un peu long. Alors, qu'est-ce que je pourrais essayer de trouver, là ? Voyons voir. Moi, je vais prendre au hasard, alors. Je risque de pas. Je vais lire ça. The Police, Flying Padovanis, Pretenders, Kinks. Bon, ça en fait du monde, ça. Le guitariste Henri Padovani, originaire de Loury, Cap-Corse, avait formé The Police avec Stewart Copeland en 76, vite rejoint par Sting. C'est sous l'influence de Padovani, un playboy drôle, charmant, amateur de substances toniques et rock à fond, qu'avant tout le monde, Police avait pris le pli punk. L'esprit était à l'amateurisme bordélique, mais pour déconner, ces trois excellents musiciens de niveau professionnel s'étaient pris au jeu punkoïde, soudain à la mode. Ils se sont retrouvés dans les tout premiers plans punk anglais avec une particularité. Stewart, le batteur, était américain, son frère Miles était leur impresario. Il avait même créé une petite maison de disques pour eux, Illegal Records. Et son autre frère, Ian Copeland, était organisateur de concerts aux États-Unis, ce qui fut évidemment décisif pour leur énorme carrière. C'est via ce contact avec Miles Copeland qu'ils se sont retrouvés à accompagner Cherry Vanilla à leur début. La chanteuse new-yorkaise avait joué dans plusieurs films d'avant-garde d'Andy Warhol, dont Pork, tourné à la Factory avant de devenir attachée de presse de David Bowie à New York, puis de prendre le micro. Réputée fille facile, elle était connue pour son penchant très sexuel et comme j'admirais le Velvet Underground qui avait travaillé avec Warhol, c'est pour voir cette rescapée de la Factory que je me suis pointé au Roxy Club le 3 mars 1977. Le Roxy était le refuge des punks anglais qui étaient littéralement interdits de scène en raison du scandale qu'avaient fait les Sex Pistols en insultant l'animateur de télé Bill Grundy en direct en décembre 1976. Les Pistols étaient devenus célèbres comme ça, du jour au lendemain. Mais la salle réputation punk avait soudain rendu impossible tout engagement pour ce groupe, comme les Dame, pour les groupes comme les Dame, Buzzox, Clash, Siouxsie, étaient grillés partout et se retrouvaient donc au Roxy, une cave Minus, où Don Letts, colloque de Christy Hind, des Pretenders, était DJ et passait du reggae faute de disque punk ou presque. Le Roxy, sous sol d'une maison au 4143 Neil Street, pas loin du coin Charing Cross, Shaftesbury, accueillait tous ces groupes ostracisés et c'est là que Sherry est venue chanter. Elle portait un t-shirt noir, Like Me, était accompagné par Sting et Stewart, plus des icos ricains, son guitariste Louis Leport et le clavier Zeca Esquibel. Mais Police, avec Padovani, ont joué quelques morceaux en première partie. Comme à mon habitude à l'époque, j'ai tout enregistré avec mon mini-cassette Walkman Sony que j'avais reçu pour mon anniversaire, et c'est comme ça que j'ai été le premier, je crois, à enregistrer ce groupe bientôt très célèbre. J'ai revendu la cassette pour une belle somme à un collectionneur anglais qui m'a retrouvé 40 ans plus tard parce que j'en avais parlé sur Facebook. C'est comme ça que j'ai découvert Henry Padovani, qui s'est fait évincer par un autre guitariste, Andy Summer, après un concert archi-quepon avec les deux guitaristes réunis au festival de Mont-de-Marsan en juillet 1977. Henry était en Corse cet été-là et Andy Summers en a profité pour s'incruster. Henry et moi étions à peu près les seuls Français de Londres branchés punk, sans oublier deux des musiciens de mon groupe, Private Vices, mon pote de Boulogne-sur-Mer, Guy Domas, qui m'a emmené voir The Harder They Come, Frenchy Clover, disque Freak Knife et le chanteur de Gino and the Sharks. J'ai réellement rencontré Henry Padovani dans les loges du festival de Reading à l'été 78, où j'étais venu voir Patti Smith, que j'ai photographié ce jour-là. Il était bourré et pesté contre les Français qui avaient colonisé la Corse. Il m'avait parlé de Napoléon, de la grandeur de son île, et j'ai admis les torts de la France en lui disant « Oui, je suis d'accord, les Corses se sont fait entuber par les Français », et ça l'a énervé. Les Corses ne sont jamais fait enculer par les Français. Il est devenu ami, je lui vendais de l'herbe et il venait souvent au squat de Private Vices. Il jouait parfois de la basse avec notre chanteur. Je me souviens qu'il avait une belle basse ibanaise que Sting lui avait filée. Un jour, il m'a expliqué la différence entre la gamme mineure et la gamme majeure, un grand pas en avant dans ma carrière de musicien. Oui, j'avais pas fait le conservatoire et j'ai appris sur le tas. Padovani m'a fait découvrir les groupes psychédéliques essentiels des années 60 auxquels le chanteur de son groupe suivant, Wayne Country, l'avait initié. On écoutait ensemble la fabuleuse compile Nuggets de Lenny Kane et les Ventures dans la pièce musique. Chez lui, à Queensgate, j'avais vu Wayne Country and the Electric Chairs au Ding Balls de Camden Town fin 77. Wayne donnait un spectacle archi-crade. Le Travelo Cape on Total, il se déguisait en Blondie, en Patti Smith. Je me souviens qu'il avait une poubelle sur scène et quand il imitait Patti Smith, il prenait une poignée de spaghettis cuits dans la poubelle pleine de fringues crades et se la foutait sur la tête. Et en guise de perruque, avant de montrer son cul en chantant « If you don't want to fuck me, baby, fuck off ». Quand Henri Padovani s'est marié à l'été 79, il a déménagé et m'a obtenu une piole dans le squat de son groupe, les Electric Chairs de Wayne Country. Wayne est reparti à New York et c'est dans l'ex-chambre de la trance, la plus rock de l'histoire, que j'ai emménagé début 1980 au 8 Queen Gates Place, près de Gloucester Road. Voilà, et alors comme il y en a encore plein de pages, je vais m'arrêter là, parce que vous pourrez lire la suite de toutes ces anecdotes dans ce livre donc de Bruno Blum, Rock in the City, qui est édité aux éditions Dandelion, comme ils disent les Anglais pour les pissenlits. Voilà, aux éditions Dandelion, Bruno Blum, Rock in the City. Merci, chers auditeurs.
Le premier 45 tours de The Police, effectivement, en 1977, avec Padovani comme musicien parmi les trois. Dessous de scène, magazine de créatures radiophoniques, moi je suis allé chercher un bouquin paru en 2017 de Gaëtan Roussel. Dire au revoir, Gaëtan Roussel, on le connaît en tant que chanteur, musicien, effectivement, et, de conneries sur Louise Attaque et Starmax et ses deux groupes. Mais là, dans ce bouquin qui s'appelle « Dire au revoir », paru en 2017, il y a plusieurs textes qui m'ont touché, dont un notamment qui va... Vous comprendrez sans doute que avec mes je me souviens de début d'émission, on tourne autour d'un même thème peut-être. Tu avais ton âge, mais tu ne t'en rappelais plus. Tu te rappelais pourtant de tout, mais à la fin, de plus rien du tout. Plus un bonjour, plus un regard, parfois pas un mot. Toi si bavard, mon mari, mon héros, voilà que la mémoire, la parole... te faisait défaut. Je suis une personne normale, je ne présente aucun trouble de la mémoire, je suis sain, c'est tout au moins mon apparence extérieure, je connais le nom de chaque fleur du jardin. Tu habitais avec moi, mais tu ne t'en rappelais pas. Toi qui l'avais tant voulu, voilà que tu ne le voyais plus. Je suis une personne normale, mais j'oublie parfois quelques mots de la vie courante, comme j'oublie parfois où sont rangées les choses de la vie quotidienne. J'oublie où sont rangés les mots dans ma tête. Je connais le nom de chaque fleur du jardin. Tu étais fleuriste, tu préparais des bouquets, des longs, des ronds. Tu vendais les fleurs du jardin, tu les plantais, elles poussaient. Tu les commercialisais. Je suis une personne normale qui commence à se faire remarquer par ses collègues ou les membres de sa famille. Je ne trouve plus le bon mot, je n'ai plus le bon geste. Mes bouquets me prennent plus de temps, la longueur des tiges est approximative, j'oublie la commande une seconde après l'avoir prise. Certains trouvent cela rigolo, d'autres s'arrêtent et contestent. Je n'arrive plus à m'organiser, mon planning m'échappe, mes journées m'échappent. Je connais le nom de chaque fleur du jardin, même si parfois leur nom ne me revient qu'au bout de quelques secondes. Tu partais faire les courses au marché très tôt, le matin. Tu aimais avoir le plus grand choix, tout était clair. Dans ta tête, tu revenais très vite, très chargé. Puis tu es revenu moins vite. Puis un jour, tu es revenu sans rien. Un autre jour, tu es revenu l'après-midi, avec les mêmes choses que le matin. Le lendemain, tu n'as plus retrouvé ton chemin. Je suis une personne normale qui ne se rappelle plus d'hier. Aujourd'hui prend toute la place. Je me demande d'où je viens, qui je suis. Qui je deviens. Je m'énerve vite, je pars faire les courses, mais je n'achète rien, je note tout, mais je ne contrôle plus rien. J'ai pris chaque fleur du jardin en photo, je les ai accrochées au-dessus de mon établi, en dessous de chacune d'elles, j'ai noté leur prénom. Je ne connais presque plus le nom des fleurs du jardin. Tes bouquets ne ressemblaient plus à des bouquets. Tu assemblais les fleurs au hasard. L'association des couleurs formait des trapeaux incongrus. Puis tu as commencé à faire des bouquets sans fleurs. Des bouquets d'une magnifique couleur. Des bouquets de fleurs d'eucalyptus très odorantes. Une fois dans le jardin, tu ne retrouvais plus la boutique. Une fois dans la boutique, tu ne retrouvais plus le jardin. Je suis une personne normale qui décide de mettre un bonnet en été. Je porte parfois mon pyjama par-dessus mes vêtements. Ma chaussure droite roule à gauche et ma chaussure gauche roule à droite. J'inverse les moments, je renverse les choses, je renverse les moments, j'inverse les choses, je ne me souviens plus du prénom de ma fille, mais je me souviens du jour de sa naissance. Je ne me souviens plus de mon adresse, ni du nom du lycée que j'ai fréquenté, mais je me souviens du jour de mon mariage. Je ne connais plus le nom des fleurs dans le jardin. Tu ne travaillais plus, tu voulais travailler, mais tu ne pouvais plus. Tu errais dans la rue, tu n'y marchais plus, tu confondais la boutique et le jardin, tu mélangeais les répliques, tu mettais mon parfum, tu doutais de tout, tu ne doutais plus de rien. Tu savais tout, tu ne savais plus rien. Tu luttais contre tout, tu ne luttais plus contre rien. Tu bougeais, tu ne bougeais plus. Je suis une personne normale, anormalement entourée. Les visages se succèdent. Ma mémoire est la matière la plus friable qui soit. Elle nous enchante, nous séduit, se réduit, puis s'absente. Je ne me souviens de rien. Plus personne ne me dit au revoir. Tout le monde me dit à tout de suite. J'aimerais avoir un jardin rempli de fleurs. Tu disais des mots à la place des autres, tu disais aux autres qu'il fallait changer l'eau, tu disais pourquoi, sans même dire un mot, tu disais n'importe quoi, juste du regard, tu ne disais plus bonjour, tu disais au revoir. Je ne suis plus personne, ce n'est pas normal, je me souviens que je faisais des bouquets de fleurs, je me souviens que je faisais des bouquets sans fleurs. Je me souviens de leur odeur, mais elles venaient d'où, ces fleurs ?
La saba miniamba, miniamba tungama la mambelon. Saba miniamba kaye delite la saba miniamba.
Eh bien... bien, c'était un morceau de Jan van Hout qui aurait dû être notre invité aujourd'hui avec Laurent à l'animation, mais Laurent étant absent ce jour, Jan van Hout reviendra en septembre. La semaine prochaine, dans Dessous de scène, ça sera théâtre. Et donc, depuis le début de cette émission, il s'est effectivement écoulé une heure et demie, ce qui correspond à votre cœur, la possibilité de pomper 500 litres de sang, que 73 cancers soient détectés en France et que 20 femmes soient violées. Dessous de scène, c'est presque tout pour aujourd'hui. Et Michel et moi, nous vous remercions, et histoire de faire venir dans le studio l'équipe de Bulles de Rêve, un petit cadeau de Jean-Marie.
T'inquiète, t'en fais pas, la vie s'accommode. L'époque n'est plus de payer comptant. Tu crèves de faim, seul, dans la rue. On dit de toi que t'es bien gentil. Mais le vote arrive, la gauche battue. Tu deviens tout de suite un abruti. Écoute, mon frère, change de trottoir. La bouffe n'a pas de parti pris. De l'autre côté, y a pas le dortoir. Personne t'en veut si tu souris. La pub envahit les cimetières. La mort revêt son par-dessus. La République est aux enchères. Ah, le général serait déçu. Ta mutuelle ou ta bagnole produisent des films à en chialer. La télé, c'est une nécropole dans ton HLM surpeuplé. Ah, écoute, mon frère, change de trottoir. La maladie n'a pas de prix. De l'autre côté, plus d'abattoir. Tu ne devras rien. Tout est compris. Le riz débarque dans les cuisines. Tous les restaurants vont fermer. Les ouvriers, sans leurs usines, refusent de se conformer. Copie informe de l'Amérique. La peine de mort battra son plein pour ces marmots neurasthéniques. C'est chez qui l'amour n'a plus de fin. Ah, écoute, mon frère, change de trottoir et refuse la génuflexion. De l'autre côté de ce miroir, tu n'auras aucune réflexion. Merci.
Et bien voilà, ainsi se termine pour aujourd'hui Dessous de scène, magazine de créatures radiophoniques. Alors, l'arrivée de Bulles de Rêve se fait en direct dans le studio. Je sens qu'ils vont avoir chaud, car ils sont 5 à se tasser. Je reconnais toute l'équipe habituelle. Et alors moi, de mon côté, pardonnez-moi pour le bruit du micro, parce que je suis obligé, étant avec l'âge devenu un peu myope, ce qui, comme le disaient Pierre Dac et Francis Blanche, est mieux que presbyte pour les gens qui sont à côté de moi. Je me rapproche de l'écran pour lire Bulles de Rêve ou nouveau dossier, Alexis. Bulles de Rêve, et dedans le morceau numéro 1 que je vais ouvrir en direct pour vous sur l'antenne de Radio Libertaire.
ce petit truc à la fin n'était pas. Donc, bulle de rêve, bonjour à tout le monde. Je vais désannoncer, mais déjà, on va dire, en effet, toute l'équipe est là avec 35 degrés minimum. Donc, chacune d'entre nous, c'est quoi, 37 et quelques, donc même un peu plus. Donc, voilà. Zoé, Alice, Marie-Pauline, Nicolas.
Bonjour.
Ouais, voilà, c'était pour avoir un bonjour collectif. On va parler de l'événement évidemment annuel du monde de l'animation, enfin consacré uniquement au cinéma d'animation, qui est bien sûr le Festival d'Annecy. Les quatre étaient là-bas et vont nous en parler un tout petit peu. Juste, je vais désannoncer. Donc, ce qu'on a entendu, c'est la musique de générique d'une série qui s'appelle Honey West. Honey West 65-66, qui a eu malheureusement qu'une seule saison. C'est avec Anne Francis, on la connaît un peu plus pour avoir notamment joué dans Forbidden Planet. Mais il y a plein d'autres choses. Et c'est une série qui est super intéressante parce que c'est avec personnages féminins. Donc, il y a un détective. Jusqu'à présent, les personnages féminins étaient plutôt dans les séries américaines des femmes au foyer ou des choses comme ça. Et là, on a un vrai personnage badass de détective qui a deux sidekicks, un homme, donc plus ou moins amoureux, mais on ne sait pas trop, elle flirte avec d'autres hommes aussi, donc on ne sait pas trop, et un Oslo. Non, je ne l'ai pas fait parce que Michel Oslo, mais un Oslo, un vrai Oslo, ça n'a rien à voir avec l'animation. Et la série est super intéressante, elle est tirée d'une série de romans policiers écrits par un couple, Gloria et Forrest Fickling. Et donc voilà, la série malheureusement a fait qu'une seule saison parce qu'il y avait d'autres choses et puis parce que les Américains trouvaient... Les